Une semaine formidable avec Canal+. Toujours plus de sport, toujours plus d'action, toujours plus d'émotion avec les offres Canal+.
Bonsoir à tous, bienvenue dans une semaine formidable pour décrypter l'actualité sportive de cette semaine. Une émission un peu spéciale ce soir puisqu'elle sera entièrement consacrée à la victoire du Paris Saint-Germain en Ligue des Champions avec des invités qui, comme moi, ont un peu perdu leur voix, mais on va tout faire pour que cette émission se tienne du mieux possible. On va faire nos 40-45 minutes sur l'exploit du PSG. Est-ce qu'on peut parler d'exploit, messieurs? François, à vous de commencer, à vous l'honneur.
Je suis peut-être l'intrus là avec les
effectivement,
tous les Parisiens, ces maillots qui me... ça me fait plaisir d'ailleurs.
Pour nos auditeurs, nos invités de ce soir, je vous ai pas présenté, messieurs, pardon. Oui. François-Louis Marie, donc un habitué désormais. Olivier Degnaud, supporter du PSG avec son magnifique maillot d'une radio nationale. et le président de la Fédération calédonienne de foot, Gilles Tavergeux, qui lui aussi a un maillot avec une compagnie aérienne qu'on ne peut pas nommer non plus. Donc mes invités de ce soir sont deux supporters du PSG et un supporter marseillais, mais totalement objectif. Donc on est ravis de l'inviter. Allez François, à vous pour ce premier débrief, on va dire.
Non, ce n'est pas une surprise en soi. C'est une surprise parce qu'on avait l'habitude de voir Paris à chaque fois se faire battre sur certains matchs importants. Mais sur un match comme celui-là, c'était du 50-50 et surtout Paris montait en puissance. C'est vrai que l'Inter, quand on regarde l'Inter qui bat le Bayern, qui bat en Barcelone, on pouvait être inquiet. Mais quand on regarde comment Luis Enrique, depuis 4-5 mois, a forgé cette équipe, non, je crois qu'ils étaient favoris au départ.
Alors, ils ont surtout, s'ils étaient à favoris, assumé ce statut de favoris. Ils ont pris la finale par le bon bout en marquant très très vite. Et puis après, ça s'est enchaîné merveilleusement bien. Mais est-ce que, sans faire offense à l'Inter, est-ce que l'Inter n'a pas été un petit peu surcoté aussi? Si on regarde un petit peu le côté défensif de l'Inter, qui prend 3 buts en demi-finale aller, 3 buts en demi-finale retour, qui prend des buts contre le Bayern aussi sur les tours d'avant, est-ce que finalement, alors certes, elle avait une capacité offensive qui lui a permis de réagir à chaque fois, mais est-ce que finalement, c'était pas un peu le point faible de cette équipe interiste?
Je pense qu'ils sont arrivés sur le plan physique un peu émoussés. Ils perdent quand même tout à la fin, hein, tout à fait.
Exactement,
à la
ils
fin.
Ont perdu la Coupe d'Italie.
Alors que a réussi à amener son équipe à être en forme, comme pour les Jeux Olympiques, à être en forme
le jour
au bon
J.
moment. Je te rappelle qu'au début, il avait dit, il perdait des matchs, il a dit, vous verrez en février. Donc il a su amener son équipe tactiquement, mentalement, ça a été important, hein, parce que sur le plan tactique, non, je pense qu'ils étaient au-dessus, ils étaient vraiment au-dessus de l'Inter, hein, avec un bon 4-3-3. Je tiens à le préciser parce que maintenant on voit beaucoup d'équipes venir avec 3 défenseurs centraux, voire 5 défenseurs, puisque lorsque les couloirs redescendent, voilà, ça fait 5 défenseurs. Il est resté dans son 4-3-3. Et avec un 4-3-3 comme celui-là, donc sur le plan tactique, il y a eu de la vidéo, il a vu Sommer jouer, il a fait Dembélé qui depuis mal de temps maintenant va faire le pressing très très haut. Et donc il faut être en condition physique
pour
sur le plan
la
tactique, pour gêner la relance. Et il a pris le risque aussi à chaque fois, quand tu regardes le match, Marquinhos et Pacho jouaient à du 1 contre 1 derrière. Donc il a travaillé ça s'est travaillé, ça n'est pas venu comme ça. Donc sur le plan tactique, ils ont été supérieurs à l'Inter, ils les ont bouffés, ils les ont étouffés. D'accord, ça c'est un truc. Et sur le plan physique aussi. Sur le plan physique, parce qu'il faut pouvoir faire un pressing 90 minutes. Hein. Dembélé, il a fait le pressing tout le match. C'est sans ça. Compter, je te dis, les autres avec Cava qui revient à la 84e et qui revient sur le couloir. Donc physiquement, ils étaient prêts. Et physiquement, il a été critiqué. Parce qu'après le match de Reims, il a dit aux gars, au moins 7-8 gars, je vous laisse libre. Allez vous reposer. Avec un petit programme, bien sûr. Hein. Les mecs sont allés à Roland-Garros et tout. Alors que dans le football, on voit beaucoup maintenant. Ah oui, il faut faire des stages de 2 semaines. Il faut rester bloqué 3 semaines.
Mise au vert,
ça met de l'attention, ça met de la pression sur les gars. Là, les gars, ils sont en tarif frais. Ils sont vraiment frais. Et sur le plan mental aussi. Sur le plan mental, ça a été une bonne chose de la part d'Enrique. Ils ont pris un psychologue. Mais la grosse part revient aussi à son adjoint. Comment il s'appelle, Raphaël Paul.
Raphaël Paul.
Je vous invite à aller écouter ses conférences de presse. C'est un gros point. Lui, il était entraîneur, vraiment préparateur physique. Il est passé entraîneur adjoint. Parce que maintenant, la préparation physique est intégrée directement au football. C'est plus seulement la muscu ou autre. C'est intégré directement dans l'entraînement. Et Raphaël Paul, c'est tout sur le plan de la préparation.
Gilles Tavergieux, comment vous avez vécu, vous, cette finale, avant qu'on rentre un peu dans une analyse?
Moi, j'étais sceptique au départ, puisque c'était, comme il dit, 50-50. Mais au départ du match, quand j'ai vu la pression que le PSG mettait déjà sur l'équipe de l'Inter, et aussi son système de jeu qui n'avait pas évolué, donc l'Inter s'est retrouvé à jouer un 4-4-2, vraiment en défense, et ils ont subi, je pense qu'ils ont pris le match par le mauvais bout. Alors que le PSG, lui, il a déroulé son football avec ses trois attaquants qui ont vraiment fait le maximum sur toutes les relances à couper. À chaque fois, le gardien il était privé de ses belles relances. Et donc, c'est vrai que le jeu italien est plus basé sur la remontée du ballon. Et là, il pouvait pas. Sommer a été vraiment privé de cette belle relance qu'il a, avec l'expérience qu'il a. Quoi.
On s'attendait à voir beaucoup Dumfries et on s'attendait à des duels entre Dumfries et Nuno Mendes d'un côté et... non, Dumfries et Hakimi d'un côté et Di Marco et Nuno Mendes de l'autre. On n'a pas vu les deux latéraux interistes, quasiment pas. Ils ont été très très peu en position offensive et bouffés systématiquement par les ailiers et le système mis en place par Luis Enrique.
C'était travailler encore une fois, Olivier, hein. Quand tu vois Cava qui revient à chaque match, qui vient aider Mendes, ce qui n'était pas le cas avec la bonne Neymar, Mbappé et même Dembélé à l'époque, hein. Là, il a réussi à faire passer un message, et c'est tout le collectif qui travaille maintenant. C'est pas un ou deux joueurs, c'est tout le collectif. Je pensais que Dumfries allait s'imposer, même sur le plan physique, parce que allez techniquement, mais sur le plan physique, sur le plan athlétique, il n'en a pas été, parce qu'en vitesse pure, on a vu Cava, le Géorgien, revenir à 100 à l'heure à chaque fois et le prendre de vitesse. Donc je pense que ça a été travaillé et non, sur le plan physique, ils ont été bouffés aussi. Et même sur le plan technique, on avait des gestes techniques de la part des Parisiens, technique individuelle, mais aussi technique collective, une grosse technique collective avec des redoublements de passes et puis des changements de rythme parce que le PSG marque des buts en transition rapide, mais aussi en jeu placé. Donc, sur le plan technique et sur le plan collectif, le PSG était au-dessus, il n'y a pas photo.
Olivier Deniaux, oui. Comment vous avez vécu, vous, cette finale? Alors, pour rien vous cacher, on était ensemble.
On était ensemble, voilà, donc tu sais comment je l'ai vécu.
Voilà.
Ouais, donc c'est vrai que j'étais plutôt confiant au départ, même si, comme tu dis, c'est 50-50, hein, on sait d'où vient cette équipe italienne. Mais moi, je fais entièrement confiance à Luis Enrique et à son staff, quand on sait comment, depuis 2 ans, il est en train de façonner son équipe. C'est pas par hasard, hein, si certains joueurs sont partis à l'intersaison. Il a recadré en début de saison, notamment Dembélé. Il l'a sorti plusieurs fois, il l'a pris à part, parce que le pressing qu'il fait sur le gardien, c'est le premier défenseur. Il a, au niveau des courses, il a fait énormément de courses, de kilomètres sur le terrain. Je regardais les datas, là, les stats, là, puisque mon fils me donne accès à certains trucs. Il est préparateur physique là-bas sur Nîmes-Montpellier. Le plus rapide, c'est Hakimi. Il a 36,8 km/h, donc c'est pas loin des stats de Mbappé, savoir en vitesse max. Et c'est énorme, et c'est normal parce qu'il part lancé. Et voilà, ça explique aussi, et comme tu disais tout à l'heure, hein, il est au-dessus du lot. Enfin, en tout cas, lui et les Parisiens sont au-dessus du lot au niveau physique. Pour appliquer la tactique de Luis Enrique, il faut être au-dessus du lot au niveau physique. Voilà. Après, il faut être rigoureux, et ils l'ont été sur ce match-là. Alors, tu peux pas l'être sur tous les matchs que tu fais tout au long de l'année au championnat. Forcément, il y a du déchet, mais ils ont été super rigoureux sur ce match, et c'est pour ça qu'il y en a 5. Moi, j'avais l'impression que ça roulait tout seul. On était ensemble. On voulait pas trop dire ça va, parce qu'on est un peu superstitieux, mais...
On aurait pu craindre cette rigueur-là.
On aurait pu craindre, parce que Donnarumma a fait zéro faute. Donnarumma, il fait zéro faute derrière. Il y a pas, enfin, à un moment, il fait une sortie. Bon, mais c'est. Voilà, mais après, il va en chercher une quand même. À 4-0.
Ouais, la seule qu'il a à sortir, il va la sortir.
Il y a déjà 4-0. Donc, les joueurs ont été irréprochables sur l'ensemble. Et en plus, l'intelligence d'Enrique, comme tu dis, c'est qu'à la fin, il fait rentrer les jeunes. Parce qu'il dit, l'année prochaine, ils vont jouer ceux-là. Hein. Donc, hop, un peu d'expérience, puis fait une finale. Et ben voilà, ça y est, c'est ton magazine, 5 ans d'expérience en un quart d'heure de jeu. Oui, quoi. Voilà. Et j'incite d'ailleurs tout le monde là, à aller voir le documentaire, je ne sais pas si vous l'avez vu, sur Luis Enrique. Hein, je sais que tu l'as vu, Olive. Il est remarquable, ce documentaire, et ça nous montre la personnalité de Luis Enrique. Et c'est vrai que le haut niveau, que ce soit en football ou dans tous les autres sports, il faut un staff, c'est un entraîneur qui manage, bien sûr, lui il manage, mais le staff autour de lui, comme tu le disais, remarquable, tous remarquables. Et ils ont une hygiène irréprochable.
Une compétence et un niveau d'exigence extrême.
C'est le petit détail qui fait la diff, un petit détail plus un petit détail. Et pour revenir, ce que tu disais sur la pression, là, quand tu joues une finale de Ligue des Champions, il les a laissés libres. Bah, à ce niveau-là, les joueurs, ils savent ce qu'ils ont à faire. Si t'es obligé de materner des joueurs pros qui vont jouer la finale de la Ligue des Champions en rajoutant de la pression supplémentaire, bah, des fois, ça peut surjouer et les joueurs sur le terrain.
Mais il a réussi à imposer ça, hein.
Il a imposé, mais c'est
parce que s'il a retiré Verratti, qui était quand même un bon joueur.
Eh oui.
C'est parce qu'il a imposé l'hygiène de vie et l'alimentation. Le joueur qui ne suit pas l'hygiène de vie, l'alimentation, mais s'autogère. Il les écarte. Il a écarté Verratti.
Alors Verratti, il a quand même écarté Dembélé un certain nombre de fois l'an dernier. Il l'a encore écarté en début de cette saison.
D'où l'importance de Luis Enrique dans cette victoire. Parce qu'en fait, il y a trois rôles dans l'entraîneur, pour être entraîneur moi-même. Il y a ce qu'on appelle l'entraîneur, celui qui mène la séance d'entraînement sur le terrain. Déjà, ça, ce n'est pas donné à tout le monde. Il est capable de le faire. Ensuite, il y a le coach, ce qu'on appelle coach. Être capable de coacher sur bonne touche, ça, ce n'est pas donné à tout le monde parce qu'il sait le faire. Il sait le faire.
Tout à fait.
C'est pas gueuler tout le temps sur le banc de touche, c'est savoir passer les bonnes consignes, avoir l'œil. Et quand tu as été ancien joueur de très haut niveau, tu vois tout de suite. Et puis tu as le management parce qu'il a su manager son groupe. Il a contre vents et marées. On n'était pas d'accord l'année dernière. On n'était pas d'accord. On critiquait Luis Enrique, on ne comprenait pas. Il met Hakimi à gauche, il met Mendes à droite. On ne comprenait pas. Mais en tant que manager,
aujourd'hui,
l'entraîneur avec un grand E, c'est ces trois rôles-là. Oui, entraîner, ça. Coacher et manager.
Alors, on l'a dit, c'est la victoire avant tout du groupe, de Luis Enrique et de son staff. C'est aussi un jeu attractif. C'est quand même, ils ont déployé un jeu qui est extrêmement plaisant. Avec le pressing permanent, ils récupèrent le ballon très haut. Ils sont capables de se projeter très, très vite. On a vu Gilles Tavergeux des choses très, très plaisantes. On a vu un beau match de football, même s'il était à sens unique. Et on dit souvent que pour avoir un beau match, il faut deux équipes. Là, ils avaient besoin de personne, ils ont tout fait tout seuls.
Ah oui, là, il n'y a vraiment rien à dire. Hein. C'est vrai que la tactique a été respectée, la rigueur des joueurs, et comme il disait François, cette histoire des attaquants qui deviennent les premiers défenseurs dès qu'on a perdu le ballon, je veux dire, c'est vraiment plaisant à regarder, quoi. Et ça rappelle un peu le football total que, comment il s'appelle, l'ancien Hollandais, Johan Cruyff, avait inculqué lorsqu'il était arrivé. Ses compétences étaient vraiment reconnues partout. Et là, sur ce match-là, c'est vrai qu'on voit tout de suite la différence, quoi, entre un bon gardien italien, après une défense quand même sud-américaine, le milieu portugais, espagnol, et puis devant les trois attaquants français, et même après les six. Bien. Parce que
défense sud-américaine, à gauche, tu as portugais, et à droite, tu as marocain. Voilà. C'est l'axe central qui est...
Oui, mais tout part de là. Je veux dire, à partir du moment où tu as la cheville ouvrière au centre qui dirige, qui replace tout le monde, ça y fait beaucoup.
Il a retrouvé son niveau aussi.
C'est sûr que...
Il a retrouvé un niveau.
C'est le groupe.
Mais il n'a que 31 ans. Donc il peut reculer encore pour 2 ans, 3 ans.
Mais c'est le groupe. C'est le groupe, moi, je pense que c'est ça.
C'est l'exigence que Luis Enrique leur a imposée, mais qui s'applique également à lui-même et à tout son staff. Parce que
dans le
documentaire, tu as vu, pour manger, il faut l'avoir mérité. Il faut avoir fait ses exercices avant.
C'est un tout.
Il s'applique à lui-même l'hygiène qu'il demande à ses joueurs. Et du coup, il est rigoureux avec les joueurs.
Alors, on dit toujours que pour gagner cette Ligue des Champions, il faut de l'expérience et une équipe d'expérience. Et là, c'est plutôt une équipe, c'est presque la plus jeune du plateau. C'est la plus jeune du plateau, je crois, d'ailleurs.
La deuxième, je crois. La deuxième plus jeune du plateau. Mais avec quand même certains joueurs.
Un petit peu moins
de
25 ans de moyenne d'âge. Oui. C'est aussi c'est un gage d'avenir, mais c'est aussi effectivement un gage de réussite. C'est pas donné à tout le monde. On voit deux gamins de 19 ans qui mettent 3 buts dans cette finale.
Olivier, on risque de la rencontrer, nous, en Nouvelle-Calédonie, contre la France sur les championnats du monde de U20. Tu te rends compte qu'on. Bon, Mayulu, c'est presque sûr, parce que je l'ai vu jouer l'année dernière sur la finale de l'Euro Espagne-France. L'Espagne gagne 2-0. Mayulu, il y était déjà. Bon, par contre, Zahir, il ne faut pas compter. Zahir est doué. Ils sont déjà en A.
Ils sont en A. C'est vrai qu'ils viennent disputer
la.
Il y a Mbaye, par exemple, aussi.
Oui. Risque de la rencontrer, c'est tant mieux pour nos jeunes. Là, c'est un autre niveau.
Mais en attendant, cette équipe, elle est pleine d'avenir, elle est très jeune et elle est déjà, j'ai envie de dire, championne d'Europe. Alors déjà, pour ces jeunes-là, mais seulement pour des supporters comme Olivier qui attendent ou comme moi qui attendais depuis très longtemps. Et puis pour les Qataris, pour Nasser Al Khelaifi qui représente QSI, 14 ans d'attente. Enfin, ça y est, c'est fait.
Oui, je veux dire, tout vient à point. Hein. Je veux dire, aujourd'hui, ils ont fait le triplé. Maintenant, avec la Coupe du Monde des clubs, on verra aussi comment ça va se passer, parce que là aussi, c'est un nouveau trophée qui est mis en place par la FIFA. Donc là aussi, je pense que le PSG a une belle carte à jouer par rapport aux autres confédérations.
On va revenir un peu plus tard dans cette émission sur à quel moment ils vont se reposer, ce calendrier chargé, c'est un débat qu'on a déjà eu ici dans d'autres émissions. Je veux juste revenir, moi, sur les 14 ans d'attente de QSI, c'est quand même... Voilà, comme Marquinhos a dit quelque chose de très intéressant. Il a associé ceux qui sont partis, comme Thiago Silva, comme Cavani, à cette victoire. Sans vous, on ne serait pas là. Et sans cette expérience plutôt négative de ces défaites qui ont fait si mal, on ne serait pas là non plus. Donc il fallait en passer par là pour arriver là.
Alors, après l'aspect sportif, où on fait les éloges de Luis Enrique, il faut quand même faire les éloges de ce président-là, El Khalifi, parce qu'il a failli être viré par l'émir à un moment donné, entre ces 14 ans-là. Donc, PSG a été critiqué, mais il a quand même construit un club. Il n'avait pas encore réussi à construire une équipe.
Voilà.
Attention, il y a une petite nuance. Mais il a quand même réussi à construire un club.
Il a structuré le club.
Il a structuré le club, il a maintenant un camp des loges, il aura peut-être un stade. Mmh. Et avec ses stars, le PSG est connu mondialement, en Asie. En Amérique du Sud, en Amérique du Nord, avec ses stars. Mais il n'avait pas encore d'équipe. Ce qui fait que le PSG est connu. Là, maintenant qu'il a une équipe et qu'il est champion d'Europe, imagine un peu le marketing au niveau des maillots.
Ah, il va vendre des maillots, là.
Imagine le marketing avec l'équipe.
J'ai déjà trois commandes, là, pour mon
prochain. Voilà. Donc, sur les 14 ans, il a quand même gagné quelque chose. C'est d'avoir fait...
Ils sont déjà en rupture de stock.
Voilà. D'avoir fait connaître le PSG partout dans le monde. Et maintenant qu'il a gagné, mais même à Paris, t'as vu l'effervescence qu'il y a sur Paris.
C'est ça.
Ben partout, dans les banlieues, les gens se sont identifiés à cette équipe-là.
La queue à la boutique hier matin faisait plus de 250 mètres de longueur.
Mais déjà l'année dernière, je crois que le maillot de Paris était le deuxième plus vendu en Europe. Je sais pas si c'était pas Manchester City ou Barcelone.
Manchester United.
Je pense qu'on va passer devant. Voilà, mais c'est vrai que pour avoir fait une compète au Qatar, les boutiques du PSG sont partout là-bas.
Ah oui, il y en a partout. Et là, maintenant que tu es champion d'Europe, avec des jeunes, j'espère que vous allez réussir à les conserver. Parce que là, les gros vont arriver.
On est un gros maintenant.
Mais je pense qu'il ne faut pas s'inquiéter là-dessus. Parce que, je veux dire, un jeune qui a été champion d'Europe avec le PSG, avant qu'il parte, je veux dire... le président va faire ce qu'il faut, mais le jeune aussi, il va penser à son avenir, parce que maintenant, le PSG est dans la cour des grands, dans la cour des grands.
Comme Barcelone avec Gamal, il faut bloquer les contrats.
Exactement, voilà.
C'est plus absolument une garantie. On l'a vu avec les transferts de Neymar et de Messi, notamment, mais on sait qu'il faut blinder. Bon, il y a eu un vrai revirement de situation, vous l'avez dit, Nasser Al Khelaifi, il a construit un club, il n'avait pas encore construit une équipe. Même si c'était à lui de trouver l'entraîneur qui allait construire cette équipe. Mais il y a eu un vrai revirement de situation par rapport justement à l'équipe de stars qu'il y avait il y a encore 2-3 ans avec Messi, avec Neymar, avec Mbappé. Là, il y a eu un vrai projet, en tout cas un projet peut-être plus cohérent par rapport au précédent qui amène à ce résultat.
Non, mais je pense que ces vedettes, il ne faut pas oublier aussi qu'il avait fait beaucoup d'autres joueurs qui étaient passés par le PSG, mais c'est aussi pour faire connaître au niveau mondial. Le club, c'est la vitrine, en fin de compte.
L'exemple, c'est Beckham.
David Beckham, il jouait 20 minutes, ouais, comme tu dis, mais voilà. Et Messi, à chaque fois, ils n'osaient pas le sortir. Mais bon, voilà. Mais il fallait faire connaître le club.
Exactement.
Je vais dire, maintenant, en Argentine, au Brésil, le PSG est connu. Maintenant, toutes les zones.
Hein. À mon avis, une des erreurs qu'ils ont fait au niveau des entraîneurs, c'est quand ils avaient Ancelotti. Vu que ça s'était mal passé, du coup, Ancelotti a été amené à partir. Parce qu'à un moment donné, je crois qu'il lui avait mis un ultimatum sur un match. L'autre, il lui a dit, moi, tu ne me fais pas ça, je m'en vais. Et c'était Ancelotti. C'est là où je pense que peut-être une des... petite erreur. Mais c'est en faisant des erreurs qu'on a...
Bien sûr, je pense qu'ils ont appris de toutes leurs erreurs. Et puis aujourd'hui, l'équipe, elle est là, l'entraîneur est là. Et puis je pense que les joueurs, ils sont là et ils vont y rester.
Mais la plupart des anciens ont félicité, y compris les entraîneurs. Hein. Même Ibra, hein.
Ah oui.
Sauf un.
Lequel ?
Messi.
Ah, Messi. Ah, ouais,
pour l'instant, elle n'a rien dit.
Non, ouais, mais ça, c'est les relations sud-américaines, espagnoles. Ça,
il n'écoute pas la radio, mais si, c'est pas.
Bon, messieurs, il y a eu un déclic parce que effectivement, cette campagne européenne, elle a quand même démarré de manière extrêmement poussive. Le PSG était quand même 25e à la 6e journée, donc potentiellement éliminé. Et il y a eu ce fameux match contre Manchester City, mené 2-0 au Parc. Et puis, on a l'impression, c'est pas vraiment ce qui s'est passé ce soir-là. Il y a eu un déclic, les joueurs se sont réveillés. On a commencé à voir finalement la période Dembélé, j'ai envie de dire. Elle a presque commencé à ce moment-là. Et depuis ce moment-là, où finalement ce match-là est gagné 4-2, tout s'est enchaîné.
Oui, mais c'est vraiment le déclic. Mais quelque part, c'est un peu... Il fallait aussi reprendre ce qu'il disait Luis Enrique, que l'équipe, elle était en construction pendant toute cette période et que là, hop, il avait trouvé vraiment le système de jeu et les joueurs à leur place. Donc c'est vrai qu'après, tout s'est bien placé, je veux dire, pour lui, sur le terrain, mais également dans les résultats, parce que sortir les trois équipes anglaises après, dans les phases de qualification, il fallait le faire.
Ah bah, dont Liverpool, qui était quand même annoncé comme la meilleure équipe d'Europe du moment, on n'a pas pris, parce que tout le monde a prédit, en tout cas les détracteurs du PSG ont dit que Paris avait pris Manchester City dans une période où Manchester City n'était pas en forme, mais Liverpool, c'était au sommet de leur saison. Donc,
Olivier, tu sais, toi, tu dis que oui, c'était le déclic sur Manchester City. Mais je vais dire quand même que quand Paris joue comme Marseille, eh ben, je tremble, je dis putain, on va en prendre 6, 7, 8, quoi. Parce que Paris, sur les éliminatoires, mérite de gagner la plupart des matchs. Hein. Il perd parce qu'il ne marque pas, attention. Oui. Il ne marque pas, mais il domine.
C'est ça, il domine.
Il domine. Bah, déjà, il dominait.
Il perd contre l'Atlético au Parc 2-1, alors qu'il domine le match, tout match, et l'Atlético a 2-0.
Il domine le match. Ouais. Donc, ils n'étaient pas trop loin. Donc, après, le déclic, c'est qu'ils ont commencé à marquer, ils ont pris confiance, et puis après, c'est parti. Hein. Mais ce n'est pas une équipe de Paris, pendant les éliminatoires, qui était dominée, qui était à la rue, qui... Non, ça jouait, attention.
Non, ça jouait en possession, jouait. Ils étaient largement devant, ça faisait dessus. Ça faisait un peu passe à 10, puisque à un moment donné, voilà. Ils ne la mettaient pas au fond, comme
exactement.
On disait, ça manquait. Mais voilà, c'était ça.
Alors, on va peut-être aligner, prendre les lignes une par une. On va reparler de Donnarumma et de l'importance de Donnarumma. On l'a beaucoup critiqué tout au long de la saison. Il a été très critiqué. Et puis, bah, lui aussi, sur ce match contre Manchester City, où il prend deux buts, mais il ne peut pas faire grand-chose sur les deux buts. Il est sans pas de son fait. Et après, on a vu un Donnarumma. Lui aussi a eu un déclic, peut-être au moment où il subit l'agression contre Singo, le joueur monégasque, et où il se retrouve avec la cicatrice qu'il arbore désormais sur la joue. On a l'impression d'avoir eu un Donnarumma transformé après cette épreuve.
Je laisserai au gardien professionnel mais Donnarumma, avant qu'il arrive au PSG,
c'était déjà un bon gardien.
Meilleur gardien d'Europe.
Oui.
Et à 21 ans.
Meilleur joueur de l'Euro.
Meilleur joueur de l'Euro, oui.
Donc, tu sais, les gardiens, c'est une question de confiance. Hein, et les entraîneurs qui sont passés, à un moment donné, les mettant en concurrence, il est bien passé pour le dire. Si tu ne les mets pas en confiance, mais c'était quand même très jeune, le meilleur joueur de l'Euro, quoi. Un gardien de but, c'est rare. Hein.
Voilà, en ayant arrêté deux pénaltys, on va continuer donc avec la défense dont parlait Gilles, avec une charnière donc sud-américaine et un William Pacho que quasiment personne ne connaissait au début de la saison,
oui,
est vraiment la trouvaille de cette année. Là, on peut aussi féliciter et nommer Luis Campos, qu'on peut associer, je pense, à un directeur sportif à cette réussite, parce que là, il fallait aller le trouver, jouer en Allemagne. Il faut être honnête, personne ne le connaissait trop, hein, même voilà, je ne sais plus dans quel club il jouait, mais il a joué, je crois que c'est le joueur de champ qui a joué le plus cette année sous Luis Enrique, donc, et on l'a vu très solide tout le temps, très serein, pas de fioritures.
Il joue en défenseur. Voilà. Il joue d'abord en défenseur, on voit plus ça. Hein. Là, la rigueur, s'il faut mettre en touche, on met en touche. S'il faut mettre en corner, il faut mettre en corner. S'il faut dégager, on dégage. Maintenant, tous les défenseurs veulent jouer au meneur de jeu.
Très, très haut.
Non, ben, il joue en défenseur. Hein. Et il ne paie pas de mine, mais il est bien présent. Et même dans sa vie, hein, tu n'entends pas parler.
Quelqu'un de très discret, effectivement. Très discret. Et comme sur le terrain, il fait son boulot.
Discret et efficace.
Voilà. Deux latéraux qui sont des flèches, Hakimi et Mendes, qui sont vraiment des flèches qui non seulement font leur travail défensif, mais qui apportent un vrai plus offensivement.
Bien sûr, puisqu'ils ont marqué des buts. Ouais. Alors, rappelez-vous, tous les matchs de qualification, Mendes en marque, Hakimi en marque, il marque même encore en finale. Je veux dire, on a l'impression qu'il était avançante sur cette finale. Mais bon, c'est aussi tout ce qu'il y a autour, quoi. Je veux dire, c'est cette confiance et je veux dire le travail aussi défensif des attaquants, parce que quand Hakimi monte, il y en a un qui revient.
Et puis je te dis, en vitesse max, ils sont tous les deux très élevés. 36-7 pour Hakimi, l'autre il doit être à 35 et quelques. Et je pensais que Dembélé était plus que ça, il est à 33-8. Tu vois, Hakimi, donc Hakimi
et j'aurais aimé savoir.
Ils sont très très vite.
J'ai regardé.
Vara, alors, il a fait énormément de kilomètres. Par contre, il est à 34. J'ai que 34, excuse-moi. Mais
c'est que 34.
Voilà, ouais. Il va
je fais partie du lot, oui.
Mais Hakimi, j'étais vraiment surpris. Ça se voit, mais voilà, il est quasiment au niveau de Mbappé en vitesse max.
Ah, mais c'est sûr. Plusieurs matchs de qualification, Hakimi, il est ailier droit, quoi.
Et il est souvent homme du match en plus.
Il a pris une autre dimension depuis deux ans, je trouve.
Exactement.
Depuis la Coupe du Monde.
Ouais, depuis la Coupe du Monde, c'est ça. Oui.
Vous allez perdre. Manchester est dessus, Barcelone est dessus, Real est dessus.
On va perdre tout le monde si on t'écoute.
On va laisser François-Louis Marie reprendre ses esprits. On va tourner une page de pub et on continuera de remonter sur les différents postes offensifs.
RRB, la pub.
Le tout info avec Mivi.
Mivi, votre spécialiste vitrerie, miroiterie, solutions techniques, sécurité acoustique et solaire. Mivi, expert en verre depuis 1994. Mivi, le verre, c'est notre métier.
Info Facebook ou le 24 11 84. Entreprise, cabinet juridique, collectivité, vous souhaitez être lu, être vu, confiez vos annonces légales au site internet rrb.nc. Contact annonceslegales@rrb.nc ou au 25 46 46.
RRB, on retrouve tout de suite la suite d'une semaine formidable avec Olivier Ledain et ses invités.
Une semaine formidable avec Canal+. Toujours plus de sport, toujours plus d'action, toujours plus d'émotions avec les offres Canal+.
Et de retour dans l'émission Sportmidable, on va donc continuer à remonter et arriver au milieu de terrain avec un milieu de terrain à 3, Neves, Vitinha, Ruiz, qui a été titulaire quasiment depuis plus de 6 mois maintenant. Ils se sont bien trouvés ces 3-là, François Lumari.
Ah, il a réussi à mettre ces 3 joueurs-là en confiance. Parce qu'au départ, c'était Zaïre Emery qui était titulaire. Il a perdu sa place. Hein. Il a perdu sa place. Il est en équipe de France, mais il a perdu sa place. Et là, ils sont assez complémentaires. Parce que le Russe, il ne paie pas de mine non plus. Hein. Mais quand tu le regardes, il joue en équipe d'Espagne. Son rendement en équipe d'Espagne, il ne l'avait pas au PSG.
Exactement.
D'accord. Et maintenant, il a réussi à avoir ce même niveau de jeu où il compense un peu le côté athlétique que n'ont pas Neves et Vitinha.
Ils sont plutôt des milieux de terrain de poche, comme on dit.
Exactement. Mais à la récupération, tous les 3 bons. Ils sont capables de boucher les angles et les intervalles et de récupérer des ballons. Pas seulement de détériorologie, ils récupèrent des ballons. Et ils sont capables de se projeter comme sur le but de Doué, là, le deuxième but
c'est
de Doué.
C'est Vitinha qui se projette sur la talonnade.
Dembélé fait Dembélé. Voilà, la talonnade et Vitinha se projette. Quoi. Ils sont en capacité de faire ça.
Bon, et on va passer à la ligne d'attaque. On va commencer par Désiré Doué. La pépite, est-ce que c'est la nouvelle pépite du football français, Gilles Tavergeux?
C'est un bon joueur, un très très bon joueur à ce niveau-là. Hein, mais après, il y en a d'autres aussi. Hein, je veux dire, Barcola, et puis au niveau français, il y a toujours Mbappé qui est devant. Et c'est vrai que il arrive sur la scène aujourd'hui à marquer des buts avec son club. Et j'espère qu'il fera la même chose en équipe de France. Mais je veux dire, oui, il faut placer des espoirs en ce jeune, mais il ne faut pas non plus qu'il se brûle. Quoi. Je veux dire, il y a aussi...
Il va forcément être très exposé maintenant.
Il va être exposé maintenant, parce que, je veux dire, c'est bien sur un match comme ça où tu exploses, c'est bien, mais après, il faut être sur la durée.
Il avait quand même marqué le but qui remet le PSG dans le bon sens contre Aston Villa. Aussi, donc il est pas, on le découvre pas là, mais là forcément.
Non, mais il a des parents
impliqués dans 3 buts.
Il y a des parents qui sont bien à côté de lui, qui le remettent un peu à l'endroit, mais faut pas trop non plus trop en faire. Il n'a que 19 ans, il faut attendre qu'il confirme parce que.
Alors il aura 20 ans demain.
Demain.
Un bon joueur, c'est lorsque bon. Tu confirmes sur les 2, 3, 4 ans qui arrivent. Hein. Mais effectivement, c'est un bon joueur, il a des qualités.
Et ça va forcément aussi passer par les performances collectives du Paris Saint-Germain.
Tout à fait.
Non, tu as raison, mais après, ce que tu disais, hein, François, il faut garder la tête sur les épaules. faut qu'il soit bien encadré. Hein. Moi, j'ai l'impression de revoir un peu Trezeguet, Thierry Henry en 98 quand ils arrivaient tout frais. Là, personne les attendait, sans complexe, ni
sans
rien.
Complexe, ils surtout vont, sans complexe, ils sont allés voilà, franco.
Tout va
quoi.
Bien. Ouais. Ils osent tout, ça marche.
Confirme l'équipe de France.
Maintenant, il faudra confirmer. Voilà, c'est ça.
Plus au niveau encore, il faut qu'ils confirment au niveau de l'équipe de France.
Mais bon, c'est sûr qu'il y a du talent, il y a du voilà.
On va parler de Kvaratskhelia, même si son nom est imprononçable. Oui. C'est quand même la trouvaille du mercato d'hiver.
La trouvaille de l'hiver.
Voilà, en général, on sait qu'à cette période-là, on prend des joueurs et on ne sent pas forcément le rendement attendu tout de suite. Là, il a été très performant très vite. Et en plus, il s'est adapté au système de jeu de Luis Enrique. On l'a vu, vous l'avez dit tout à l'heure, avec deux, trois courses de repli défensif assez impressionnantes. Et il a quand même une caisse physique aussi. Il reprend Di Marco deux fois proprement. Ah oui, Olivier Daniel.
Ouais, mais tu vois, mais c'est pas un hasard si Luis Enrique a choisi celui-là. Hein. Je sais pas si c'est le système qui est fait pour lui ou si c'est lui qui est fait pour ce système de jeu, mais en tout cas,
c'est ça le recrutement. Fait, hein, le recrutement, c'est par rapport à ton système de jeu. Ça. Donc oui, si Luis Enrique a mis une option sur lui.
C'est pas ce qui se passait avant. Hein, voilà. Puis là, en l'occurrence, oui.
Il a refusé un autre joueur de Naples qui était le Nigérian Osimhen. Et puis, quel autre joueur a été refusé aussi? Il a refusé les deux. Luis Enrique, il a dit non, ça ne correspond pas à ce que je recherche.
Ouais, c'est ça.
Et on voit que
là il va chercher le niveau de la mentalité qui s'adapte à l'équipe. Hein. Maintenant, il a créé une âme, il a créé un esprit de groupe. Je pense que leur recrutement, puisqu'il y a Ramos qui est aussi derrière dans le recrutement, ils vont choisir en fonction de l'état d'esprit de chacun des joueurs. Hein. Ça va être clair. Hein.
Ah, les postes, les places vont être chères.
Ah oui, mais je suis même surpris que Naples ait lâché Cava. Hein, parce que Naples lâche à la mi-décembre.
C'est ça.
Et ils sont quand même champions d'Italie.
Ils
sont quand même champions d'Italie. Donc, le recrutement du PSG sur Naples, ça veut dire que ça fait un moment qu'ils avaient l'œil sur ces joueurs-là.
Ils voulaient déjà le prendre sur le mercato d'été d'avant. Et on va terminer par, on l'espère, le futur Ballon d'Or, mais je vais lancer le sujet avec vous, messieurs. Ousmane Dembélé, qui, on a presque envie de dire, malheureusement, n'a pas marqué sur cette finale, mais qui a fait un pressing, on l'a dit tout à l'heure, constant sur Sommer pour empêcher la relance et qui a été très, très précieux dans un travail un peu plus de l'ombre par rapport à d'habitude.
Oui, mais c'est ça. Ce qu'on attend d'un attaquant, c'est aussi un respect des consignes de l'entraîneur. La première consigne qu'il devait avoir, c'était de faire jouer à chaque fois à Sommer. C'est pour ça qu'il renvoie les ballons comme il avait l'habitude de le faire, de bien ramener son équipe dans le jeu. Et là, je veux dire, il ne marque pas. Il a une occasion où, sur un deuxième poteau, où il la met carrément de l'autre côté. Mais bon, après, une course folle aussi pour arriver à toucher ce ballon. Mais quelque part, on voit que ce joueur, il s'est fondu dans le groupe et surtout, il a adapté son jeu au système de jeu qui a été mis en place par l'entraîneur. Et puis, je pense qu'aujourd'hui, c'est devenu un grand joueur et c'est une pièce maîtresse du PSG pour les années à venir.
Olivier Deneau, Ballon d'Or ou pas Ballon d'Or?
Alors, je suis pas fan vraiment de ce genre de trophée, mais maintenant qu'ils ont gagné la Champions League, on va attendre de voir ce que ça va donner avec l'équipe de France par la suite et je crois que ça va être ça qui va déterminer.
Ça va être déterminé.
Mais ça va être.
Oui, mais Olivier. Le dernier Ballon d'Or, c'était Rodri de Manchester City. C'était pas non plus. Il est quand même Ballon d'Or.
Mais qui avait porté Manchester City jusqu'au titre.
Et là, Dembélé, même s'il marque pas, il a été régulier depuis début de saison.
Il cherche pas les stats à tout prix pour être Ballon d'Or. Contrairement à d'autres qui, au bout du compte, l'auront peut-être pas.
Il aurait pu demander à tirer tous les pénaltys. Voilà, non. Pour l'instant, il est régulier. On attend de voir.
Et puis il a surtout franchi un palier lui aussi par rapport à son hygiène de vie, parce que je me rappelle de la polémique quand il jouait à la PlayStation jusqu'à pas d'heure quand il était à Barcelone. Et ce qu'il mangeait pendant qu'il jouait.
Cette année, il n'a pas été blessé.
Non, forcément.
Il n'a pas été blessé.
Quand ton hygiène de vie devient un peu plus raisonnable, du coup, tu te blesses
moins de blessures.
Tu récupères mieux, tu dors.
Et même quand des jours de repos lui étaient accordés, il disait à Luis Enrique non, j'en veux pas autant, je reviens mardi.
Mentalité a changé.
Il a complètement changé.
La mentalité.
L'esprit de groupe.
Bon, quels objectifs maintenant pour le PSG, messieurs, puisqu'ils ont couru après ce titre depuis.
Ils vont perdre 5 ou 6 joueurs, mais.
Au moins 14 ans.
Ils vont aller à l'OM?
Non.
L'OM en ce moment, ils jouent.
J'ai pris Rabiot déjà. Bon.
Ouais, mais c'était pas cher.
C'était pas cher.
Là, je pense que les prix vont augmenter de manière drastique et que les contrats vont être bouclés. Mais en tout cas, quels peuvent être les objectifs maintenant du PSG, puisque voilà, je l'ai dit, ils ont attendu cette victoire tellement longtemps.
Mais attends.
Est-ce que ça va pas être un peu la phase de décompression?
Mon premier match en 78 au Parc des Princes. Alors voilà.
Alors nous, en tant que supporters, oui, on l'attend depuis plus longtemps, mais on va dire que si on considère le projet de QSI, c'est quand même 14 ans. Ouais. C'est un peu plus que ce qu'a mis Abramovich avec Chelsea. C'est un peu plus que ce qu'ont mis l'Arabie Saoudite avec Manchester City, oui, qui ont dû mettre 11 ou 12 ans. Donc bon, voilà, on va dire que c'est dans la moyenne.
C'est la moyenne.
Quels peuvent être les objectifs maintenant? C'est de la conserver.
C'est de la conserver, surtout.
Joueurs,
c'est celle-là.
Ce statut de club un peu émergent.
Je pense pas que ce soit dans la dynamique de Luis Enrique. Je t'ai dit, c'était un entraîneur, un coach, mais c'est aussi un manager. Il va chercher déjà à conserver ce qu'il a gagné sur le plan national, mais lui, c'est son groupe qui l'importe. Donc il faut qu'il garde déjà les joueurs qu'il a, garder cet état d'esprit, peut-être renforcer l'équipe, parce qu'il faut aussi la renforcer. Hein. Dans ton axe central, Kimpembe, ça suffit pas. Hakimi tout seul sur le côté droit, ça suffit pas. Et au milieu, les trois milieux, si demain tu as Neves et Vitinha qui est blessé, ça te fait ça en moins. Donc il va certainement chercher à renforcer l'équipe par rapport à ce qu'il a actuellement. C'est assez normal.
Alors cette Ligue des Champions va rapporter un peu d'argent, donc ça devrait permettre de recruter un petit peu aussi. Hein. On parle de 148 millions, voilà. Donc sur la campagne européenne, ça devrait permettre de recruter un peu, même si on se doute que quand on sait que le PSG veut acheter, le prix flambe. Mais bon, ça fait partie du jeu. On va suivre ça en tout cas avec beaucoup d'attention, et ne serait-ce que comment le groupe évolue dans les semaines qui arrivent avec la fameuse Coupe du Monde des clubs, donc nouvelle formule créée par la FIFA, vous le disiez tout à l'heure.
Oui, c'est ça, c'est la nouvelle formule qui a été lancée par la FIFA, la Coupe du Monde des clubs, et ben voilà, ça, cette année, ben, on va pouvoir regarder ça, comment ça va être mis en place, mais tout est déjà plus ou moins ficelé.
C'est ça, trois matchs de poule, le premier le 15, donc dans une quinzaine de jours, contre l'Atlético Madrid. Il y a un match contre Seattle aussi et un match contre Botafogo.
Et ça, voilà, se passe
sur
une
phase de poule de 3.
Parce que là, j'ai pas suivi ça.
Il me semble
aux États-Unis, non?
Que ouais, je crois que
c'est aux États-Unis. C'est aux États-Unis, là où la prochaine Coupe du Monde va se dérouler.
D'accord.
Donc, ça va être une marche à blanc pour les stades qui vont accueillir.
On va pouvoir, le PSG va pouvoir traîner ce maillot avec la fameuse étoile.
Vous êtes messieurs, il faut changer vos mailles ou vous êtes tout à la page.
Je le ressortirai tout le temps, mais bon, c'est l'original.
Non, mais bon.
Messieurs, je vais prendre l'étoile. Si, il y en a encore, si j'en trouve.
Oui, si on arrive à en trouver.
Le maillot, il est un peu dur à trouver.
Mais il n'y en a pas, il y a une rupture de stock maintenant.
Messieurs, cette émission est passée très très vite, trop vite. On va terminer par vos coups de cœur, comme d'habitude. On va conserver les coups de cœur. Olivier Deniaud, on va commencer par vous, votre coup de cœur de cette semaine.
Ouais, à l'entraîneur, voilà. En tant qu'entraîneur, moi aussi, je suis solidaire avec le staff Enrique, qui est un personnage qui m'a ému à tous les niveaux quand j'ai regardé son documentaire, et voilà. Luis Enrique.
Ah, j'aurais pu aller sur Luis Enrique aussi, parce que c'est la formation des entraîneurs, comme je disais tout à l'heure, des entraîneurs avec un grand E, espagnol. Ouais. Mais mon coup de cœur ira sur ce côté humain qu'il y a eu tout autour de votre victoire, là. Notamment Marquinhos, qui pleure. Oui. Avant que le match ne soit terminé. Vous avez déjà vu ça quelque part, vous? Avant que le match ne soit terminé, un joueur qui est en train de pleurer.
Si, un autre Brésilien, quand il prenait 7-0 contre l'Allemagne.
C'est Silva. Mais Marquinhos, juste avant le match, parce qu'en fait, il a vécu
d'autres raisons
galères, là. Et le chant des Parisiens reflète bien un peu ça. Le fait qu'il pleure avant la fin du match, votre chant, là, où pendant des 14 ans, vous avez galéré, etc., etc. Donc, voilà, le coup de cœur, c'est ça.
On vous apprendra les paroles,
monsieur le Marseillais.
Gilles, on va terminer par vous.
Moi, coup de cœur à Marquinhos, comme il disait, parce que en suivant le match, quand il reste 3-4 minutes de jeu, là, je pense que les nerfs ont lâché. Parce que c'était le gars de la grande campagne du PSG. Depuis 12 ans, il est au club. Il a connu toutes les galères, comme on dit. Et ben là, la consécration pour lui. Et on le voit lorsque... on ne sait pas ce qu'ils se disent, mais je pense que quand le président Séverine de l'UEFA lui fait l'accolade et lui parle, il a déjà encore tout de suite les larmes aux yeux, et il va chercher son trophée et il le brandit après avec toute son équipe. Mais c'est vraiment un grand joueur, un grand capitaine.
Messieurs, merci à tous les trois d'avoir partagé.
Nous aussi, on a eu la petite larme au livre en regardant le match à la fin.
Nous aussi, mais on ne peut pas dévoiler tous nos secrets à l'antenne.
Non, bah, on ne va pas tout dire.
Et il faut qu'on rende l'antenne.
Surtout que cela ne nous regarde pas,
pour le journal. Messieurs, merci à tous les trois d'avoir partagé cette émission spéciale sur la victoire du PSG. Et on se retrouve la semaine prochaine.
Allez, Paris.
Pour vivre le meilleur du sport, les plus grands matchs, les exclusivités, c'est seulement avec les offres Canal+. Canal+, le partenaire d'une semaine formidable sur Radio Rythme Bleu.